Donc cette page est une adaptation audio d'une page qui se trouve sur le site internet que vous pourrez trouver écrite à la rubrique pour lire la Bible. Je tiens à préciser que cette page écrite, et donc c'est la version oralisée, est elle-même une adaptation d'extraits, de compilation d'extraits d'autres pages, le Concile de Nicée II et le commentaire détaillé de Zacharie. Ces extraits ont été mis ensemble pour vous parler, disons, de la juste façon de lire la Bible dans la tradition de l'Église. Commençons par l'extrait de Nicée II. Enfin, cette vision biblique et chrétienne de l'art, comme contribution libre et volontaire à l'œuvre de Dieu, ne peut pas ne pas s'appliquer aux livres bibliques eux-mêmes. Ici, nous touchons à un point fondamental qui différencie radicalement la conception chrétienne et musulmane de l'inspiration. Selon les musulmans, le Coran fut un livre dicté à Mahomet. Ce dernier n'eut aucune part dans l'élaboration artistique du Coran. Les musulmans vont plus loin. Le Coran est vu comme un livre qui préexistait dans le ciel. Il fut juste transmis au moment le plus opportun. Rien de tout cela pour la Bible, bien que certaines sectes, telles les Témoins de Jéhovah, envisagent l'inspiration biblique en ces termes. D'ailleurs, certains fondamentalistes protestants, évangélistes, etc., ont une conception très voisine des Témoins de Jéhovah. La seule conception juste de l'inspiration des livres bibliques est au contraire celle qui tient compte de la réalité. D'abord, Dieu, comme nous venons de le voir, respecte notre liberté et notre talent propre. Il ne veut et ne peut donc pas nous utiliser comme de vulgaires dictaphones. Une simple lecture de la Bible, ensuite, nous montre qu'à l'évidence, celle-ci est en fait une collection de livres, reflet en partie de leur époque, de leur culture et du talent de leur auteur. Écoutons plutôt le Concile Vatican II dans sa constitution Dei Verbum. Pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés en leur laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il transmette par écrit, en auteur véritable, tout ce qu'il voulait, et cela seulement. Oui, cela a donc, ce que dit Dei Verbum, est lourd de conséquences pour notre façon de lire la Bible. 1. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, ce qui veut dire, entre autres, que l'on ne peut attendre d'elle des vérités scientifiques, notamment, qui étaient ignorées des auteurs qui l'ont rédigée. 2. Il faut se former pour la comprendre en rapport avec le terreau culturel où cette parole de Dieu, la Bible, a pris racine, et ce pour chacun des livres qui la composent. Jésus lui-même ne dit pas autre chose en Matthieu 19, versets 7 à 9. Il admet que certains passages de la Bible ont été rédigés en tenant compte de l'état d'esprit des gens de l'époque correspondant à la rédaction de ces passages. Ce qui ne veut pas dire que certaines parties de la Bible sont caduques, confère Matthieu 5, versets 17 à 19. Mais ces parties de la Bible ont besoin d'être méditées, interprétées et réactualisées grâce à la prière d'abord et à une formation adéquate ensuite. À ce sujet, je vous conseille de lire cette page du site que vous trouverez dans Conseil pour lire la Bible. 3. Ce qui découle des deux postulats précédents, c'est qu'il faut donc non seulement lire la Bible, mais aussi la méditer, l'interpréter et la prier, nous laissant guider par celui-là même qui a inspiré les auteurs bibliques tout en respectant leur talent et leur liberté artistique. L'Esprit Saint confère 2e épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Dieu nous respecte trop pour nous priver de notre intelligence quand il s'agit de lire sa parole. Là aussi, Dieu attend de nous un effort coopérant à sa grâce. Il s'agit donc, en lisant la Bible, de coopérer à l'action de Dieu dans l'interprétation de tel ou tel passage. Cette coopération est en fait le résultat de l'acquiescement libre de nos intelligences et de nos sensibilités à l'inspiration du Saint-Esprit quand nous entrons en contact avec la parole de Dieu. À une échelle plus grande, cela justifie pleinement l'existence de la tradition et du magistère. En effet, le Saint-Esprit a également guidé l'Église tout entière dans l'interprétation de la Bible. Ce qu'on appelle la tradition n'est en définitive pas autre chose. Enfin, ce dernier point implique le respect d'interprétations différentes de la nôtre, dans la mesure où celle-ci se conforme au garde-fou qu'est la tradition de l'Église. La pluralité d'interprétations pour un même passage est en réalité un merveilleux signe du fait que Dieu parle à chacun de nous différemment, selon notre sensibilité propre, nous permettant ainsi de nous enrichir les uns les autres. Mais au bout du compte, le message final, en dépit d'interprétations différentes, ne reste-t-il pas le même? En conclusion, remercions Dieu parce qu'il nous aime et nous respecte tant qu'il nous a donné la liberté de créer jusqu'en dans la rédaction et l'interprétation de sa propre parole. Il en a fait le lieu par excellence de la rencontre de son génie divin et de notre génie artistique humain, reflet de sa gloire. C'est pourquoi la Bible, lue selon les règles de la tradition, sera toujours et à jamais une lecture rencontre entre Dieu et tout ce que nous sommes avec notre vécu et notre sensibilité. Rien ne nous est arbitrairement imposé d'en haut, tout est affaire d'amour et de coopération, tel le Père et le Fils en la Sainte Trinité. Voici le grand 2 de cet exposé, qui lui n'est pas extrait du Concile Nicée II, mais extrait du commentaire détaillé de Zacharie, mais toujours avec le même thème, la juste façon de lire la Bible. Plus concrètement, n'utilisons pas d'excuses du style « la Bible c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi ». Dieu est là prêt à nous expliquer le sens de ce que nous lisons. N'hésitons pas à le prier de nous guider dans la lecture de tel ou tel passage et acceptons de ne comprendre que ce que nous pouvons comprendre. Dieu nous révèle son message à la mesure de notre avancement et de notre sensibilité. Il ne faut donc pas essayer de forcer l'interprétation d'un passage qui nous semble difficile. Forcer l'interprétation, c'est faire par exemple plus appel au raisonnement intellectuel qu'à la prière. Que faites-vous ou feriez-vous devant un passage de la Bible qui vous paraît obscur? Essayeriez-vous de redoubler de prière ou de vous acharner à comprendre par le raisonnement? En dernier lieu, n'oublions pas que Dieu n'a pas la même notion du temps que nous, confère deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Dieu ne se presse pas en nous faisant violence. Dieu prend le temps de respecter nos libertés, nos limites, ce qui veut dire qu'il faut parfois accepter de ne pas comprendre tout de suite. La prière devant la parole de Dieu peut quelquefois nous conduire à la sagesse de nous rendre compte qu'il est nécessaire de laisser du temps à la parole de Dieu pour faire son chemin. Il arrive en effet que certains passages s'éclairent progressivement sur des années. Ainsi, un passage qui nous paraissait obscur peut nous paraître limpide des années plus tard, l'esprit ayant travaillé dans l'intervalle. Comme je l'ai déjà souligné plus haut au sujet de l'intercession notamment, Dieu prend le temps d'agir en respectant ce que nous sommes. Il ne veut pas nous imposer une explication que nous ne sommes pas encore en état de comprendre, ou, pour revenir à l'intercession, Dieu ne veut pas non plus imposer sa présence à qui que ce soit. Alors, il prend le temps de travailler avec le temps pour que tout mûrisse et que, par là, notre adhésion et celle de ceux pour qui nous prions soient rendues possibles. Pour en revenir à l'interprétation de la Bible, remercions le Seigneur dont la patience ne vise qu'une seule chose, que nous puissions comprendre avec notre cœur, notre intelligence et notre raison ce qu'il a à nous dire. Que ce Dieu est grand, lui qui ne brusque personne. Sa puissance est justement dans sa patience, confère deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Soyons-en sûrs, notre humilité sera récompensée quand, après avoir eu la sagesse de prier et d'attendre, nous comprendrons certains passages que nous jugeons difficiles voire révoltants, et ce, peu importe le temps que cela prendra. Il vaut mieux comprendre que de se laisser imposer une interprétation qui ne pourra pas pénétrer en profondeur notre cœur. Dieu nous respecte trop pour nous parachuter sa parole. Il veut notre adhésion en profondeur, ce qui explique pourquoi il ne veut pas faire l'économie du temps. Jésus ne dit pas autre chose en Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pour nous aider à encore mieux saisir Souvenons-nous de la fierté légitime que nous avons quand nous avons accompli quelque chose par nous-mêmes, même si nous avons dû nous faire aider. Aurions-nous cette fierté si tout avait été fait à notre place? La vue n'est-elle pas plus belle quand l'ascension s'est faite avec un minimum d'effort plutôt qu'avec un téléphérique? Dieu veut la coopération de notre personnalité, cœur et raison, quand il veut nous faire contempler sa parole, son message et sa vision pour nous et pour l'humanité, quel que soit le temps nécessaire. Cet amour respectueux de Dieu peut d'ailleurs nous expliquer pourquoi les auteurs bibliques ne sont pas considérés comme des marionnettes auxquelles Dieu aurait dicté son message sans effort de leur part. Les auteurs bibliques ont conservé leur talent artistique et leurs limites scientifiques au moment d'écrire le message que Dieu leur confiait. La Bible est le résultat de la coopération entre Dieu et l'homme, et non l'imposition par Dieu d'un message parachuté sans trace d'humanité. Les conséquences en sont lourdes. La Bible ne peut pas être prise au pied de la lettre. Elle nécessite un effort d'interprétation, effort qui se veut d'abord humble et priant, comme nous venons de le dire. La Bible n'est pas de l'écriture automatique, ce n'est pas du fast-food spirituel ou un livre de recettes pré-mâchées, comme certains fondamentalistes voudraient nous le faire croire. Nous ne pouvons attendre de la Bible des vérités scientifiques, puisque Dieu a tenu compte de la maturité intellectuelle des auteurs bibliques avec qui il coopérait. Nous devons également avoir présent à l'esprit le milieu culturel dans lequel baignaient les auteurs humains de la Bible, leurs légendes, leur vision parfois guerrière des choses, etc. En conclusion, écoutons le Concile Vatican II dans sa constitution Dei Verbum. Pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés en leur laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il transmette par écrit en auteur véritable tout ce qu'il voulait et cela seulement. Soit dit en passant, cela pose un sérieux problème pour le Coran, dont la conception est aux antipodes de ce que nous venons de dire pour la Bible. Le Coran est vu tout particulièrement par les salafistes comme un livre parachuté du ciel qui ne donne pas lieu à interprétation. Tout est à prendre littéralement, les passages violents comme le reste. Si l'on veut résumer les différences de conception entre la Bible et le Coran, voici ce que l'on peut dire. La Bible est un livre dont le message fut inspiré aux auteurs, le Coran serait un livre dicté à un homme. Et enfin, pour conclure, justement sur cette affaire du Coran et de la Bible et de la nécessité d'interpréter et de ne pas lire à la lettre, je voudrais vous citer un passage qui s'appelle les versets douloureux que j'ai eu le plaisir de lire dans le quotidien La Croix. Comment les neutraliser? Donc ces passages choquants. Sauf lecture fondamentaliste, on ne peut pas s'en sortir. Donc les versets douloureux. Comment les neutraliser? Sauf lecture fondamentaliste, on ne peut s'en sortir que par un travail d'interprétation. Chacun des intervenants de ce livre s'y emploie, insistant entre autres sur le contexte ou la contingence historique de ces versets. Donc là, c'était une introduction du journaliste de La Croix à un livre qui justement préconise l'interprétation de la parole de Dieu. Donc voici ce que dit le livre, après l'introduction du journaliste. La parole de Dieu n'est pas le texte, mais elle est dans le texte. Quand il s'est adressé à l'homme, il a adopté leur langage pour être compris. Il y a malheureusement une idolâtrie du texte beaucoup plus dangereuse que la simple idolâtrie, celle qui se résume à adorer des statuettes. Conclusion du passage et de nouveau commentaire du journaliste. Le refus de l'idolâtrie du texte est donc la condition préliminaire à tout travail d'interprétation, une tâche indispensable si l'on veut éviter le scandale d'un Dieu violent, abusivement invoqué pour justifier la barbarie des humains entre eux.